J'ai reçu totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai été convoqué au cas d'âge. Je pense qu'on peut encombrer les deux, mais effectivement, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs pour votre émission 100% interactive. Ce mercredi 25 janvier 2012, nous nous penchons sur la situation des enfants en Afrique centrale. Quels pays des 7 sous-régions, à savoir la RDC, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon et la Guinée équatoriale, le font état du trafic d'enfants qui est devenu un fléau et qui a pris de l'ampleur. Un rapport de l'UNICEF précise que sur les 1800 enfants de la rue qui sont menacés par cette prête à Brazzaville, 30% viennent de Kinshasa. Près des 65 délégués venus de ces pays se sont réunis à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville du 18 au 20 janvier courant et ont recommandé de créer une structure de lutte contre ces fléaux en Afrique centrale. Comment lutter contre les trafics d'enfants dans la sous-région de l'Afrique centrale? C'est la question à laquelle vous allez répondre pour donner vos points de vue. Mais nous recevons dans ce studio pour en parler M. Florent Botto, administrateur chargé du programme protection de l'enfant à l'UNICEF, volet enfants vulnérables, bien sûr. Marie-Chantal Lumba, c'est une poutre son pour la réalisation de cette émission, mise en onde par Guy Manzango, sous la supervision de Nico Ndaka, Pierrot et la Belgique pour la présence. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Et c'est le mercredi, appelez-nous au 081-890-69, notre numéro d'appel pour intervenir dans cette émission. Et nous parlons du phénomène du trafic d'enfants qui prend de l'ampleur en Afrique centrale. Les 5 pays concernés se sont réunis du 18 au 20 janvier à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Et d'après un rapport de l'UNICEF, sur les 1800 enfants concernés par ce trafic Congo-Brazzaville, 30% viennent de Kinshasa. Qu'est-ce que vous, auditeurs des radios Kaski, vous proposez comme mesure pour lutter contre ces phénomènes? Et appelez-nous plutôt au 081-890-6315. Appelez-nous au 081-890-6315 pour intervenir. Et vous pouvez également réagir par l'adresse électronique pa@radiocapi.net et aussi nous laisser un commentaire sur notre page Facebook, la page Facebook bien sûr de l'émission Parole aux auditeurs. Monsieur Florent Botto, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien avant que nous puissions aller dans le vif du débat avec les auditeurs, revenons d'abord au niveau de l'UNICEF. Comment est-on parvenu à découvrir qu'il y a ce phénomène qui touche les trafics d'enfants, que ce soit à RDC, Congo-Brazza et d'autres pays qui sont concernés?
Bon, il faut souligner qu'au niveau de la République démocratique du Congo, on n'a pas comme telle de données par rapport à cette situation. Mm-hmm. Mais nous savons que compte tenu d'un certain nombre d'indicateurs au niveau du pays, le phénomène doit être certainement de grande ampleur. Mm-hmm. Comme vous le savez, rien que par sa position géostratégique, la République démocratique du Congo partage 9 frontières avec des pays voisins. Et comme par ailleurs aussi, vous savez que la situation socio-économique du pays étant de plus en plus difficile, il se développe malheureusement un commerce illicite, mm-hmm, qui pouvait faciliter normalement ce genre de pratiques. Et on a aussi beaucoup de problèmes nouveaux culturels, par exemple, où on sait que des familles, par exemple, facilement donnent les enfants à d'autres personnes qu'elles jugent beaucoup plus nantis pour les aider à avoir un niveau social beaucoup plus élevé. Et ce genre de pratiques qu'on peut encore souligner sont pour nous des indicateurs qui montrent bien que la situation doit être assez dramatique. Alors, au niveau régional, bien évidemment, il y a des actions qui sont beaucoup plus situées au niveau de la République du Congo-Brazzaville. où l'UNICEF a appuyé le ministère des Affaires sociales et a fait une étude qui a montré que 30% en fait des cas d'enfants qui sont victimes de la traite sont des enfants en provenance de la République démocratique du Congo.
Et quand on parle de cette traite, si on peut permettre aux auditeurs de comprendre, vous avez donné un exemple, une famille qui pense remettre l'enfant dans les mains de quelqu'un mieux nati qui peut aider à cet enfant, ou bien où l'enfant va retrouver les conditions sociales qui peuvent lui permettre d'évoluer. Alors, quand est-ce qu'en principe on parle de traite d'enfants selon ces études, quand est-ce qu'on peut dire que cet enfant est victime de cette pratique?
Ouais, la traite d'enfant, en fait, la traite de personnes d'abord, des êtres humains, les mots traite, il y a même toute une convention qu'on appelle la convention de Palais, mais qui définit les concepts. La traite concerne notamment les recrutements, les transports, l'hébergement ou l'accueil, ou l'utilisation de l'enfant, de la femme ou d'autres personnes à des fins d'exploitation. Vous voyez, je vous donne un cas très concret. Il y a un réseau, il y a quelques années, qui a été découvert ici à Kinshasa, où il y avait un groupe de personnes qui avaient des contacts à partir de Kinshasa avec des potentiels clients d'enfants de l'Afrique de l'Est ou en Europe. Et ces personnes allaient prendre des enfants au nouveau compte de Décassai. Les enfants venaient ici, c'est-à-dire les personnes récupéraient ces enfants, ils les faisaient transporter jusqu'à Kinshasa, en donnant des promesses aux familles pour une espèce d'amélioration de la situation de ces enfants et de façon directe à leur famille. Mais en fait, ces enfants venaient ici pour être préparés à un trafic, c'est-à-dire être vendus, pour aller travailler au compte de ces personnes qui, par exemple, payaient un enfant, si tu prends pour le cas de Brazzaville, un enfant qui travaille au quotidien et qui fait des bénéfices autour de 25 000 francs CFA, mais l'enfant ne reçoit pas moins que 5 000 francs CFA. Donc le reste, c'est la personne qui a favorisé le trafic et la personne qui utilise l'enfant qui se partage. Donc vous voyez, dans ces conditions, un enfant qui fait l'objet d'abord de séparation avec sa famille, qui se retrouve dans un endroit où il n'y a pratiquement pas de racines, et qui se retrouve malheureusement exploité, soit économiquement ou sexuellement. Pour le cas qu'on a vu à Brazzaville, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont employées dans les hôtels, qui font l'activité sexuelle, mais en fait, c'est au profit des mécènes, au profit des responsables. Et les bénéfices sont partagés entre les personnes qui les ont amenées là. Mais souvent, c'est tout un circuit, vous voyez, ça part du lieu d'origine jusqu'au moment où l'enfant est exploité. Entre tous ces parcours, il s'est passé beaucoup de choses.
Avant peut-être qu'on évoque les causes, revenons d'abord aux auteurs de ces pratiques. Qui sont-ils au niveau de la société? Est-ce qu'il y a des parents qui sont complices? Et a-t-il, ce sont des hommes d'affaires? Est-ce que ce sont des réseaux de gens qui ont des déviations, des comportements déviants, ou bien c'est n'importe qui se livre à ces pratiques?
Ouais, les classiques, c'est souvent des réseaux, parce que vous voyez, c'est un processus qui demande à la fois l'implication de plusieurs personnes pour arriver à les réaliser. Il faut organiser d'abord les recrutements, c'est-à-dire au niveau des résidences de l'enfant. Ça veut dire que tu dois travailler avec les personnes pour convaincre les parents, pour vous introduire chez les parents de la personne, de l'enfant par exemple, présenter un projet pour cet enfant-là. Souvent, les gens travaillent avec les compagnies de transport ou des gens qui travaillent dans les agences de transport pour faciliter les transports de l'enfant. Ils travaillent aussi parfois avec les hôtels pour justement faciliter soit l'hébergement transitoire ou carrément l'exploitation pour les parents des filles qui se livrent à l'activité sexuelle. Et souvent, quand on voit bien les circuits, comment on perd dans ce genre de pratiques, c'est vraiment souvent un réseau. C'est vraiment un réseau. C'est difficile d'opérer seul, quoi.
Voilà. Nous avons beaucoup de questions. Nous allons les évoquer tout au long de l'émission. On va aussi écouter les auditeurs, ce qu'ils pensent de cette situation, mais c'est beaucoup plus pour les auditeurs. Qu'est-ce qu'ils nous proposent comme piste de solution pour lutter contre ce phénomène? Et d'autres questions vont être évoquées. Nous avons Benjamin qui est à Bounia, Maître Mbo qui est à Kikwit, Maître Machaka qui est à Lubumbashi au Katanga. On va leur donner la parole, et surtout pour les pistes de solution qui peuvent faciliter, qui peuvent permettre à ce phénomène, si possible, comment peut-on parvenir à l'éradiquer?
Parole aux auditeurs.
Benjamin, vous êtes à Bounia, c'est en province orientale. Bonjour.
Bonjour, je suis journaliste.
Vous avez suivi l'introduction avec notre invité, les phénomènes, on peut le rencontrer à Bounia, on peut le rencontrer partout. Alors, dans cette émission, nous dégageons les pistes des solutions pour lutter contre la traite d'enfants. Benjamin, qu'est-ce que vous proposez?
Oui, moi, j'ai plutôt une question à poser à notre invité. Moi, je voulais savoir s'il y a des dispositions mises en place par l'État, parce que l'État a ratifié la convention relative aux droits de l'enfant, son article 19 qui parle de la protection de l'enfant sur les traites, la protection de l'enfant. Donc, on doit protéger l'enfant contre les maltraitances. Alors, est-ce que l'État a ratifié cette convention pour ratifier ou il y a des dispositions mises en place afin de protéger l'enfant contre ces mécanismes? Je vous remercie.
Merci, Benjamin. C'est plutôt une question parce que il y a la convention sur la protection de l'enfant, vous l'avez dit, l'article 19 qui dit que l'enfant a droit à cette protection. Y a-t-il des mécanismes en RDC pour faire appliquer ces dispositions ou bien le texte a été tout simplement ratifié sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour protéger les enfants en RDC? Merci, Benjamin. Maître Mbo, vous êtes en ligne. Bonjour, maître.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, votre contribution dans la lutte contre la traite d'enfants.
Oui, selon moi, pour lutter contre le traitement inhumain des enfants, notre gouvernement doit améliorer d'abord les conditions de vie de la population, notamment en ce qui concerne la création des emplois, parce que si un parent travaille, il a des moyens, il va bien assurer l'éducation de ses enfants. Et ensuite, notre gouvernement doit renforcer la sécurité dans ses frontières pour que le groupe de milices qui enregistre les enfants dans leurs rangs disparaisse totalement dans notre pays. Et enfin, notre pays doit signer les accords avec d'autres pays pour sanctionner tout individu qui poserait un acte de nature à compromettre les droits des enfants dans notre pays. Voilà ce que je propose comme solution.
Merci, Maître Mbo. Améliorer les conditions de vie des parents, renforcer la sécurité au niveau des frontières et surtout lutter contre le phénomène des groupes armés où beaucoup d'enfants se retrouvent recrutés. Mais il y a aussi des conventions qu'il faudrait signer pour punir ceux qui violent la loi en cette matière. Nous avons M. Machak à signer à Lubumbashi au Katanga. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi les trois propositions de notre ami Détifus. Qu'est-ce qui peut être fait pour lutter contre ce phénomène?
Quant à moi, monsieur le journaliste, nous devons suivre nos amis les traits comme ils disent que si vous avez un enfant qui fait la fièvre, avant de soigner la fièvre, il faut d'abord savoir les causes de cette fièvre-là. C'est ainsi que nous devons d'abord savoir les causes de l'invasion de ces enfants-là. C'est dit à l'irresponsabilité de certains parents qui abandonnent leurs enfants à leur triste sort. Aujourd'hui, nous arrivons ici chez nous au Congo, les enfants commencent à partager les responsabilités de la maison avec leurs parents. Un parent qui envoie ses enfants se déambuler, vendre quelque chose au centre-ville, et à partir de cette vagabondage des enfants au centre-ville, et ces gens-là profitent de l'occasion pour prendre les enfants et aller les trafiquer à l'étranger. Quant aux pistes de solutions, monsieur le journaliste, notre gouvernement doit mettre en place les mécanismes pour lutter contre le phénomène enfants de la rue. C'est-à-dire, notre gouvernement peut même mettre un brigade spécial au centre-ville afin de commencer à ramasser tous les enfants qui se déambulent, qui vendent les sachets, quoi que ce soit au centre-ville, pour les remettre dans leur toit de domicile. Ça, c'est la première piste de solution. La deuxième piste de solution, monsieur le journaliste, il faut qu'il y ait la construction de certains centres d'encadrement de ces enfants-là abandonnés. Donc, c'est le cas qui est fait ici chez nous au Katanga par le gouverneur Moïse avec les centres de rééducation de la Katapa. On a récupéré les enfants de la rue au centre-ville et on les a hébergés quelque part. Mais Le gouverneur ne pouvait pas s'arrêter seulement à les héberger là-bas. Il fallait attirer aussi l'information dans une apprentissage, quelque chose, quelque apprentissage de métier qui pouvait les aider dans l'avenir. Et vous avez aussi, vous avez aussi suivi l'exemple du général Kaloumé. Lui qui avait pris les enfants là de la rue pour les amener à Kanyamakasese, pour commencer à les apprendre l'agriculture, les maçonneries, quelques métiers qui peuvent faire quoi? Les aider dans l'avenir. C'est-à-dire, ce n'est pas la faute des enfants comme tel, c'est la faute des parents. Puisque si un enfant se trouve à la maison, c'est difficile que ces gens-là arrivent à la maison de quelqu'un pour venir récupérer l'enfant et aller les vendre, aller les trafiquer à l'étranger. C'est parce qu'ils le trouvent au centre-ville en train de faire une activité quelconque. Alors notre gouvernement doit tenir compte de ça, créer des centres d'encadrement de ces enfants-là, mettre même, sanctionner même ces des parents qui abandonnent leurs enfants à l'esprit social ou qui envoient leurs enfants pour faire des petits commerces au centre-ville.
Merci Monsieur Machaka, vous êtes à Lubumbashi, plusieurs propositions de la responsabilité des parents, en passant par bien sûr l'encadrement des enfants. Lutter contre les phénomènes enfants qui se retrouvent dans la rue, les enfants qui sont abandonnés, parce que c'est de là aussi que vient le problème. Mais vous pensez qu'il faut des centres d'apprentissage et d'encadrement de ces enfants. Nous avons Mirimbe Lusenge qui nous a écrit des Butembo qui dit ceci, il faut que le gouvernement intervienne là-dessus. Sans que ça l'a dit seulement, le problème ne concerne pas seulement les enfants, il y a aussi les adultes qui sont concernés par la traite. C'est Georges Moïse de Béni. D'ici, l'État congolais doit chercher à démanteler ses réseaux de trafiquants aussi par la voie médiatique. Il faut beaucoup plus sensibiliser les parents par rapport à leurs responsabilités. Moroni Yves de Kasumbalesa dit ceci, le gouvernement doit comprendre avant tout que ses enfants sont aussi congolais et qu'ils ont, comme tout congolais, besoin d'être considérés. Je me suis toujours demandé si vraiment le ministère de la famille, genre et enfants existe vraiment pour qu'enfin ses enfants respirent aussi, pour mieux dire, le gouvernement doit faire cette affaire, cette affaire son cheval de bataille. Et nous avons Ingopa, qui est à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour Ingopa.
Bonjour Pierrot, bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Kapi.
On vous écoute Ingopa, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ce phénomène?
Ok, merci. Premièrement, je vous remercie de m'avoir octroyé la parole.
Mm-hmm.
Et je fais de cette opportunité pour aussi donner quand même mon opinion sur ce sujet, sur ce phénomène. Premièrement, on doit d'abord soutenir cette commission, il y a quand même pensé pour lutter contre ce phénomène. Parce que si vraiment il n'y avait pas cette idée, et s'il n'y avait pas cette commission, donc on devrait quand même avoir 40% de ce phénomène pour les enfants congolais. Deuxièmement, si je voulais dire, on va d'abord conscientiser les enfants eux-mêmes. Donc vous savez, lorsque les parents envoient leurs enfants pour aller vendre ces enfants en ville, comme il y a une auditeur qui vient de le dire là, si l'enfant n'a pas une conscience de dire que moi j'ai mes parents, et si il trouve là une personne qui vient venir, selon partout, par exemple, à l'étranger, et surtout les enfants chinois. Je connais bien les Chinois, comment ils se comportent. Vous le dites seulement que non, nous allons partir à l'étranger. Vous voyez quel sera réellement la conscience de l'enfant. Et maintenant, si vous comparez la vie de ses parents, ainsi que la vie où il va aller vivre, je ne sais pas, à l'étranger, l'enfant sera toujours en mesure d'accepter aussi cela. Alors, on doit d'abord conscientiser les enfants eux-mêmes, et aussi savoir les causes d'abord. Il faut penser que les enfants puissent d'aller vivre à l'étranger. On doit d'abord savoir les causes. Et alors, je voulais aussi dire qu'on doit aussi tenir compte de la population. Comment la population est en train de vivre? À des fois, ce phénomène peut être causé par les responsabilités des parents. Il faut d'abord comment est le parent de cet enfant. C'est ça, au moins, on doit quand même d'abord vérifier la situation des parents, ainsi que conscientiser aussi l'enfant. Donc, savoir les causes qui ont contribué pour cet enfant d'accepter d'aller quand même à l'étranger.
Merci Ingopa. Sensibiliser les parents, sensibiliser les enfants eux-mêmes, mais aussi plus s'intéresser aux causes hein, qui font que ces enfants puissent se retrouver dans ces conditions et enfin qu'ils acceptent d'être victimes de ces trafics. Nous avons Steve qui est en Bandakia, nous avons aussi Nicolas qui est en Boujma. Gardez la ligne, messieurs, nous allons revenir à vous le temps de pouvoir donner la parole à notre invité, qu'il puisse réagir déjà à ses premières propositions. Monsieur Florent, nous avons là des propositions, mais aussi des questions comme celle de Benjamin par rapport à aux actions du gouvernement congolais, hein, face aux conventions internationales. Mais les auditeurs ont déjà donné des pistes de solutions qui vont de l'identification des causes. Qu'est-ce que vous allez nous dire, quelles sont les causes qui font que c'est l'enfant sort de cette condition, mais aussi la création des centres, la lutte contre le premier enfant de la rue. À autant de propositions des auditeurs, on vous écoute.
Ok, merci. Je pense que je veux commencer par rapport à la première question qui demandait les dispositions qui existaient. Si tu veux, moi je voudrais plutôt aborder le sens des dispositions qui devraient exister. Parce qu'on sait que beaucoup de ces dispositions pour le moment ne sont pas encore là. Je pense que de façon générale, le gouvernement doit d'abord commencer par ratifier toutes ces conventions-là, parce que c'est ça la base légale, le cadre légal. Qui fait que même si au niveau national, on n'a pas de loi spécifique, mais le fait qu'on a ratifié une loi internationale, et sachant par le principe de droit que la loi internationale a la suprématie sur la loi nationale, on peut toujours s'en servir pour essayer de mettre en place des mécanismes de prévention, de prise en charge. Mais il faut noter que dans notre pays, le protocole de Palerme qui adresse de façon plus ou moins exhaustive la question de la traite a été ratifié par notre pays. Et plus que ça, la loi de 2009 sur la protection de l'enfant consacre tout un article sur la traite de l'enfant. C'est l'article 162 qui reprend pratiquement la définition donnée par le protocole de Palerme et qui va plus loin en donnant même des sanctions. Hein. La loi dit la traite est punie de 10 à 20 ans et d'une amende de 5 000 à 1 million de francs congolais. Donc, au niveau, je pense, au niveau des textes, le gouvernement fait pas mal d'efforts. Mais souvent, le problème de notre pays, c'est dans l'application de ces textes-là. Dans les mécanismes à mettre en place pour accompagner l'application de ces textes, qui peuvent aller de la sensibilisation jusqu'au nouveau moment d'organiser la réponse nationale. C'est là où souvent on pêche. Ça, c'est vraiment de façon générale. Donc, si le gouvernement arrive à ratifier, arrive à harmoniser sa loi, sa législation nationale par rapport aux textes internationaux, c'est déjà un bon début. Mais il faut aller plus loin, il faut organiser de façon rationnelle la réponse nationale. Et la meilleure façon de le faire pour moi, c'est vraiment d'arriver à avoir une politique spéciale qui peut se traduire par un plan stratégique ou un plan opérationnel qui structure la réponse nationale, c'est-à-dire qui organise comment le pays lutte contre le phénomène. Au niveau de la coordination, au niveau des interventions sur le terrain, au niveau du suivi, quels sont les mécanismes qu'un État peut mettre en place pour justement essayer de lutter contre le phénomène. Mais il faut savoir de façon générale, la traite c'est un phénomène à la fois complexe mais aussi multidimensionnel. Donc un acteur seul ne peut pas prétendre résoudre les problèmes. Comme j'ai entendu beaucoup d'auditeurs insister sur les rôles des familles, des enfants, c'est une très bonne chose parce que au cours du processus, par exemple, les recrutements peuvent être volontaires, tu vois. Quelqu'un peut venir brandir tout un tas de promesses à la famille pour essayer d'avoir un enfant. Et au départ, l'enfant ou la famille peut, par naïveté, accepter de bonne foi. Mais la personne qui, sachant derrière l'action qui va se suivre, va arriver maintenant à en abuser. D'où, je pense, tout le mécanisme à mettre en place au niveau des familles, au niveau des communautés, au niveau des ONG, au niveau de l'État, mais aussi au niveau contre des frontières pour essayer de réglementer les choses de façon à ce que tout le monde puisse avoir des moyens non seulement de suivre la situation, mais un mécanisme de monitoring pour essayer d'identifier les auteurs et essayer d'identifier également les victimes. Parce que vous pouvez à partir d'une victime, remonter jusqu'à son auteur. Mais si vous pouvez aussi, à partir d'un trafic, quand vous identifiez contre, vous voyez, supposons un trafiquant qui s'amène plus avec les petites filles, qui transporte des choses, alors que les enfants, à un moment donné, devaient être à l'école ou devaient être accompagnés de leurs parents, ou quelqu'un qui s'amène avec un enfant, sans avoir tous les documents qui montrent que ces enfants, déjà, ça peut interpeller. Donc, il faut vraiment, pour moi, organiser des dispositifs à tous les niveaux, au niveau des familles, responsabiliser les parents, responsabiliser les enfants eux-mêmes, au niveau des communautés, organiser exemple, les associations, sensibiliser les gens avec les églises, avec les mouvements des jeunes, mm-hmm. pour que tout le monde soit de la partie.
Voilà. Mais là, il y a un problème qui se pose, c'est par rapport au phénomène enfants abandonnés, les enfants qui sont de la rue à Kinshasa. Comme on l'a dit, hein, la rencontre de Brazzaville, on a relevé effectivement le fait que ces enfants vont d'une manière exponentielle dans beaucoup de nos villes. Et là, peut-être que ça devient trop complexe. Parce qu'ils sont sous la responsabilité de qui ? Ils sont aux tombes dans tous les coins de rue et ils sont maintenant la proie la plus facile. Et là, peut-être que la tâche risque de se compliquer. Aussi longtemps qu'on aura beaucoup d'enfants qui vont se retrouver dans la rue, je crois qu'il sera difficile en tant que tel de s'attaquer au phénomène.
Oui, mais pourquoi les enfants sont dans la rue ? Les enfants sont dans la rue parce qu'ils cherchent dans la rue ce qu'ils n'ont pas trouvé dans la famille. Ouais. Un enfant. Parfois, qui n'a pas à manger, un enfant qui ne va pas à l'école, qui reste du matin au soir comme ça, ne rien faire. Mais c'est tout de moyen de se donner de loisirs, ou c'est tout de moyen de trouver à manger, ou comment acheter quelque chose. Ça peut l'amener dans la rue. Mais aussi, les enfants sont dans la rue parce qu'au niveau de la famille, il y a un problème. Il y a la dislocation de la famille. Mm-hmm. Du papa d'un côté, maman de l'autre côté, ou il y a la maltraitance avec la marâtre, ou le papa qui est arrivé. En fait, il y a un environnement qu'il faut entretenir au niveau de la famille pour permettre que l'enfant reste dans la famille. Mais une fois que l'enfant quitte la famille, c'est tout déjà dans la rue, c'est déjà un problème. Mm-hmm. Et à ce niveau-là, la loi aussi de notre pays, elle est claire. L'abandon d'enfant, c'est une infraction pour tout ça. Et comme je disais, est-ce que nos lois sont d'application? Et si tu vois, on revient au cas des enfants qui sont abandonnés, est-ce que tous ces enfants-là, quand ils traversent, ils ont tous les papiers pour justifier ces déplacements-là. Tu vois, il peut y avoir des complicités par rapport au niveau de la frontière où il y a des négligences. Donc, j'ai dit, c'est vraiment complexe. Ça demande une analyse, une bonne analyse pour identifier d'abord les circuits, si on le connaît, et puis mettre en place des mécanismes qui permettent de l'analyser.
Ok, Nicolas, Steve, Moïse, nous allons revenir à vous pour que vous puissiez aussi donner votre point de vue par rapport à ce phénomène de trafic d'enfants en Afrique centrale. Quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre pour lutter contre cela? 081-890-6315, c'est notre numéro d'appel, mais vous pouvez aussi envoyer un mail à pa@radiocafé.net. Il y a aussi la possibilité d'y réagir à travers Facebook sur la page de l'émission Parole aux auditeurs. Vous pouvez y déposer un commentaire et nous en avons déjà beaucoup ici qui seront tous d'ailleurs exploités au cours de cette émission.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Tapissoir.
Nicolas, vous êtes en Bujimayi au Kasaï Oriental, bonjour. Nicolas, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
On vous écoute, Nicolas.
Merci bien. Je crois que pour mieux avancer, il faut d'abord reculer d'un pas, et cela dans le sens de corriger les erreurs du passé. Et l'histoire elle-même se définit comme étant une étude du passé de l'homme pour la préparation d'un meilleur avenir. Et l'histoire nous apprend quelque part que les tracés des êtres humains a commencé avec les Égyptiens face aux Israélites qui vendaient leurs frères et leurs sœurs, cela dit à la grise qui les frappait. La question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi cela a repris. Et pourtant, on avait déjà mis terme à cela. La réponse est simple. On sait bien qu'il y a une crise qui perdure au Congo. Et cela, c'est ça les racines, la racine de tous ces mots qu'on est en train de démigrer aujourd'hui. Et pour ce faire, ça demande premièrement à l'État de s'organiser. Mais c'est bien que hier on avait débattu sur un point qui parlait de l'agriculture.
Mm-hmm.
Hein? Il faut d'abord mettre à la disposition de la nourriture normale pour pas permettre à cette population de bien nourrir, de se nourrir, hein? Créer de l'emploi, en plus payer des fonctionnaires. cet élan-là qui peut nous permettre de bien avancer et de mettre fin à cela, à cet élan-là.
Voilà, merci Nicolas. Vous pensez que tout va d'abord commencer par l'amélioration des conditions de vie de la population. Quand les parents seront mieux supportés, ils pourront aussi avoir la possibilité de s'occuper de leurs enfants et les enfants ne seront pas exposés à ces phénomènes. Merci beaucoup Nicolas, vous êtes en Boujmaï, au Kassai oriental. Nous avons Sèvres qui est en Bandaga, dans la province de l'Équateur. Bonjour Sèvres. Sèvres, vous êtes en ligne, bonjour. Apparemment Sèvres est distrait sur sa ligne. Moïse, vous êtes à Guémena, dans la même province de l'Équateur. Bonjour Moïse.
Bonjour, c'est Moïse Niman de Guémena.
On vous écoute, Moïse. Qu'est-ce qui doit être fait? Nicolas de Mbujma, il pense qu'il faut commencer par l'amélioration de la condition de vie des parents. Et vous, quel est votre point de vue pour lutter contre ce phénomène?
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. La constitution de la RDC avant et après sa révision, à son article 16, stipule que la vie humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Et selon la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, à son article 1er et 3e, on dit « Tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Il a dit également que tout individu a droit à la vie et à la liberté et à la sûreté de sa personne. Donc cela implique aussi les enfants. Mais en RDC, les droits des enfants sont souvent négligés. Le trafic des enfants est dû à plusieurs causes, parmi lesquelles je vais énumérer 4 causes principales. La première cause, c'est la pauvreté accrue des Congolais. La deuxième cause, c'est le manque de sensibilisation de la population par les services de l'État sur les droits de l'enfant. La troisième cause, c'est le manque de sensibilisation de la population par les services de l'État sur la planification de la naissance. D'où, suite à cette manque de sensibilisation, la population met au monde vraiment des nombres des enfants trop élevés, ils mettent au monde comme des champignons, donc ils n'ont pas moyen de pouvoir bien contrôler ces enfants. Il y a aussi le manque de services, manque de sensibilisation par les services de santé qui l'entraînent des violences que je viens de parler. Mais aussi, certaines causes de ce manque de mécanismes de suivi par le ministère des familles, genre et enfants. L'État s'attaque souvent aux conséquences et de s'attaquer aux causes. Alors que l'État ignore qu'on ne fait pas l'omelette sans cassoulet. Donc il faut premièrement s'attaquer d'abord aux causes et s'attaquer aux conséquences. Comme proposition, le service de l'État, à travers le ministère des familles, genre et enfants, pousse mener une campagne de grande envergure en vue de sensibiliser la population sur les droits de l'enfant, les devoirs des parents envers leurs enfants, mais aussi de créer des centres d'inclusion pour assurer le suivi des droits des enfants. Deuxième proposition, que le service de santé puisse sensibiliser la population sur la naissance désirable. Donc il faut s'attaquer aux causes au lieu de s'attaquer aux conséquences. Merci beaucoup.
Merci Moïse. Vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Nous avons Marc Bignoma de Bukavu qui dit ceci. C'est un danger grave que nous courons, sinon c'est le début de la dégradation de la jeunesse. Et comme mesure palliative, il faut qu'on renforce le service de direction générale des migrations aux frontières et sensibiliser la police pour un contrôle assidu. C'est ce que nous observons à Bukavu au niveau de la frontière Rugezi 2. Le week-end dernier, c'est grâce au RAS et à la police qu'on a dû récupérer un enfant qu'on avait couché dans un bassin, les faisant passer pour une marchandise. Et Dieu merci, Bayot a dit ceci. Il faut renforcer et doter la police spéciale pour la protection de l'enfant des moyens nécessaires. Didier Assoumani nous a écrit, bien sûr, par notre page Facebook pour dire ceci. Tous les gouvernements de la sous-région doivent s'impliquer avec tous les sérieux dans cette lutte de trafic des enfants. Les textes interdisant et sanctionnant cette pratique doivent être d'une stricte application. Il faudrait également la mise en place d'un service régional mixte chargé de la recherche des récalcitrants et des suivis dans la lutte de cette pratique ignoble. Chaque gouvernement doit faire de cette lutte du trafic des enfants une grande priorité dans son programme et développer des mécanismes de lutte efficaces. C'est un défi à relever nécessitant les concours de tous. Kizito Moindo de Boutembo dit ceci, seul l'encadrement chapeauté par les gouvernements suffit pour pallier à ces problèmes. Et cela se fera par l'inscription de ces derniers dans les écoles, apprendre à ces derniers certains métiers adaptés à leur âge. L'enfant et les Congo de demain veillons à sa protection. Avant d'écouter le Dr Richard Chintessa, nous avons le message de Christophe Matata de Lubumbashi. Ces trafiquants profitent de la faiblesse de notre gouvernement. L'espoir reste aux médias congolais à dénoncer très haut cette pratique illicite. Et l'État doit se racheter en impliquant avec les mêmes sanctions comme pour tous les criminels. Et enfin, Apollo Sambi à Joseph de Bukavu. La police spéciale de l'enfant doit faire preuve de professionnalisme en assurant correctement la protection de l'enfant. Elle doit aussi lutter contre le démantèlement de ces réseaux des trafiquants en renforçant des mesures sécuritaires aux frontières qui constituent des voies de sortie des trafiquants d'enfants. Nous avons Dr Richard qui nous appelle de Kinshasa. Docteur, vous gardez la ligne, hein, vous allez intervenir tout de suite, comme aussi Sébastien, mais notre numéro d'appel c'est le 081-890-6315, mais c'est aussi par pa@radiocapi.net. Mais le commentaire sur la page Facebook des paroles aux éditeurs sont les bienvenus, comme nous sommes en train de les exploiter au même titre que toutes les interventions en direct dans cette émission.
Paroles aux éditeurs.
Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tout le monde.
Vous avez suivi, beaucoup de gens sont revenus sur les causes de ces pratiques, mais aussi nous avons besoin de ces pistes de solutions pour lutter contre ces phénomènes, docteur. Qu'est-ce qui peut être fait?
Oui, ce qui peut être fait, c'est ceci. D'abord, j'ai une introduction. Je dis félicitations à l'UNICEF qui a sonné le glas pour que le gouvernement se réveille. Deuxièmement, j'ai deux petits témoignages pour vous montrer que le problème n'est pas récent, il est ancien. Pourquoi? Parce que lorsque je suis médecin dans le Bas-Congo, une dame influente dont le parti était impair à l'époque était indexée comme faisait le trafic d'enfants. Et il y a eu des preuves qu'elle faisait le trafic, mais ce dossier était occulté. À Kinshasa, ici, à l'université de Kinshasa, un matin, je revenais d'un contrôle médical, on avait mis la main sur une femme qui avait un enfant volé à Matadi, à Matadi plutôt, ce qui est drôle, c'était l'enfant de mon photographe. Donc là, il y avait des preuves. Ok. Mais ce dossier a été occulté parce que une dame qui a une maison à Kimwenza, très influente à l'époque du parti État, a tout fait pour que ce dossier soit occulté. Donc, c'est une histoire qui est ancienne. Ce qu'on peut faire, c'est de réveiller la vigilance de tout le monde, de suivre tous ceux qui se disent amoureux des enfants par rapport à leurs activités, c'est-à-dire ceux qui ont des orphelinats, etc., etc., parce que derrière tout ce qu'ils font comme acte de bienfaisance, etc., se cache le trafic des enfants. Voilà ma petite contribution.
Merci beaucoup, Dr. Richard. Il faut beaucoup de vigilance, mais aussi surveiller ceux qui ont en plus d'activités qui sont tournées vers les enfants, parce que des fois, les gens se cachent d'ailleurs ces activités pour faire les trafics. Merci beaucoup, Dr. Richard. Sébastien, vous êtes à Kongolo, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Radio Okapi.
On vous écoute, Sébastien.
Pour lutter contre les trafics des enfants ici en RDC, je pense que les ONG, les églises, les écoles, il faut que tous ces organismes-là puissent sensibiliser les parents sur leur rôle qu'ils doivent jouer en tant que responsables des enfants qui vivent sous leur toit. Souvent, le procès de trafic des enfants, c'est imiter les exemples de serpents en brousse. C'est inhumain. Il faut que la justice soit sévère en la matière. Le phénomène enfant de la rue, les Nkulula, dénote l'irresponsabilité des parents. Autre chose, que notre gouvernement accorde du travail aux Congolais avec un salaire décent qui permet de satisfaire aux besoins de leur famille. Tant que chaque ministre et chaque député continuera à toucher les salaires de 120 policiers ou 200 soldats, la misère ouvrière risque de tenter bon nombre de parents à ouvrir des brèches à travers leur maison au trafic des enfants. Pour la survie, je voudrais ici interpeller le gouvernement congolais à prendre au sérieux cet aspect de problème au risque de prêcher dans le désert.
Merci Sébastien. Il faut d'abord la sensibilisation au niveau de toute la communauté. Vous avez parlé des ONG, des églises partout. Mais vous avez aussi insisté sur le rôle de la justice dans la répression de crimes, mais aussi l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous écoutons Guélor qui est à Karanga, au Kasaï occidental. Bonjour Guélor.
Bonjour.
On vous écoute, alors voilà, autant de propositions de plusieurs compatriotes pour lutter contre ce phénomène dans leur diversité. Ils ont proposé beaucoup de choses. On vous écoute aussi, alors.
Ok, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette émission. Ce sont des questions que je
la question de la responsabilité, de savoir si cette acte-là se passe en collaboration avec les parents ou avec les réseaux, il a répondu que ce sont les réseaux qui les font. Mais comment les réseaux le feront sans la participation des parents? Si les réseaux le font sans la participation des parents, ça veut dire que le gouvernement et le jeunesse est inclus. Parce que ceux qui constituent les réseaux ne sont pas les Congolais, sont d'ailleurs. Mais si ce n'est pas les réseaux, là, c'est les parents. Hein, si nous disons que c'est les parents, c'est les réseaux. Si c'est les parents, c'est sur base des souffrances et ce qu'ils peinent. Il n'y a pas longtemps, vous et nous, avant, on dit à Kamina, un papa qui avait déjà vendu l'enfant pour la première fois, et la deuxième fois, quand il est parti pour vendre, il y a eu du suite au montant, le montant qu'il avait demandé à ce monsieur-là, et c'est que le monsieur lui répondait, il n'avait pas de recommandations, il y avait eu du suite, comme des médecins parlent, on l'avait arrêté. Et si le papa l'a fait, c'est sur base de ce fonds. C'est ainsi nous interpellons le gouvernement, tout intervenir sur ça, en payant bien les fonctionnaires, en cherchant comme l'explique hier, ils ont parlé de l'agriculture, tout ça. En cherchant des gens, en engageant des gens dans tout gère là, tout est passé à l'émission. Nous avons besoin du gouvernement pour le faire.
En merci. Allez-y rapidement.
Oui, les enfants, ils sortent. Si on prend les enfants, ils sortent pour pas des frontières. Et le conseil prenait une personne pour sortir, il faut qu'il y ait le passeport et le visa. Ils sortent comment? S'ils sortent en passeport et le gouvernement est inclus, là c'est point du gouvernement. Merci.
Merci Guélor, la responsabilité des parents, l'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi savoir la complicité au niveau des pouvoirs publics, parce qu'il y a des services de l'État aux frontières, mais comment les enfants peuvent-ils sortir, passer ces frontières sans qu'ils soient aperçus? Il y a un problème aussi des complices, il faut des responsabiliser tout le monde à ce niveau-là. Oh. Jean, vous êtes à Lubumbashi, dans la province de Kinshasa. Bonjour Jean.
Oui, bonjour.
On vous écoute Jean, vous avez suivi, notre ami pense qu'il faut aussi la part des responsabilités au niveau des services de pouvoir public qui sont au niveau des frontières, parce que les enfants ne peuvent pas sortir sans qu'ils soient contrôlés, sans qu'ils soient aperçus. Qu'est-ce qui peut être fait encore, Jean?
Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Jean, je tiens de Lubumbashi. Le problème de trafic d'enfants est réel. Avec notre structure qui est le PCP2E, nous avons organisé une enquête l'année 2010 dans la cité frontalière de Kasumbalis, où nous avons constaté beaucoup d'enfants étaient victimes de ce phénomène dans la zone appelée zone Est, qui était exploitée par le routier, donc le chauffeur des tracts, qui utilisait les enfants abusivement, de rapports sexuels, l'exploitation, beaucoup d'abus, où nous avons dénoncé en 2010. Alors, en fait, avec l'appui de nos partenaires, nous avons initié ce qu'on appelle le mécanisme communautaire. On a mis dans quelques communautés, c'est-à-dire le comité d'alerte et de vigilance des droits de l'enfant, pour renforcer les capacités des familles. En fait, en bref, pour me résumer, ce que nous pouvons suggérer, de renforcer les capacités des familles. Aujourd'hui, dans nos communautés, nous avons oublié la protection de l'enfant. L'enfant, aujourd'hui, au Congo, est devenu l'affaire des organismes, des ONG, mais la communauté, là où l'enfant naît, l'enfant vit et l'enfant grandit, nous oublions nos responsabilités. Raison pour laquelle nos frontières sont devenues passables, où tout l'enfant peut être exploité. Moi, je pense que, pour ce qui nous concerne, comme acteurs de la société civile, il faudrait vraiment orienter nos actions vers nos communautés, qui soient renforcées sur le principe de protection de l'enfant. Si chacun de nous veille sur l'enfant de son voisin, on peut arriver à quelque chose. Pour terminer, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes dans nos communautés, où les gens disent, par exemple, à Lingala, ce sont des expressions qui doivent dire une ignorance de l'enfant. Moi, je pense que nos communautés devraient se renforcer. Donc, il faudrait orienter les actions dans les communautés pour renforcer les communautés qui sont faites la protection de l'enfant.
Merci beaucoup, Jean. Nous avons Dominique Savier de Kinshasa qui dit ceci. Il faut que les autorités concernées interviennent le plus tôt possible, car c'est la jeunesse de demain qui est en danger. Chams Bandou Kakourou de la ville de Goma dit ceci, l'essentiel serait d'améliorer les conditions de vie des Congolais, puisque c'est l'unique grande conséquence de la pauvreté et de l'insécurité. Trésor Kabambaki et Talubumbashi, seul l'État congolais est responsable de ces phénomènes, parce que s'il donne un environnement propre et une vie décente à son employé, qui sont nos parents, je pense que chaque parent aura fait le mieux d'occuper son enfant, soit à l'école ou soit avec un autre métier auquel il voudrait l'initier. John Biamungu de Goma dit ceci, que les États concernés en partenariat avec l'UNICEF investissent dans cette lutte en finançant certaines ONG et médias pour dénoncer ces trafiquants afin de traquer et être poursuivis en justice. C'est le même avis que partage Henri Zeng qui est à Lubumbashi. Nous allons, avant d'écouter Jean et Malonga qui est dans les bandoudous, on va donner la parole à notre invité pour qu'il puisse aussi commenter la suite de ce point de vue des auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Florent Botto, au niveau de l'UNICEF, quelles sont les actions qui sont menées en appui au gouvernement ou bien à partant de ce qui a été décidé du 18 au 20 janvier à Pointe-Noire au niveau de l'UNICEF en dehors de monitoring, de rapport, mais quelles sont d'autres actions concrètes dans la lutte contre ce phénomène?
Ok, je pense qu'il faut revenir peut-être aussi à un aspect qui me semble assez important. Beaucoup d'intervenants ont insisté sur la sensibilisation.
Mmh.
Sensibiliser les gouvernements, sensibiliser les parents, sensibiliser les enfants eux-mêmes. Et moi, je pense qu'au-delà de la sensibilisation, il faut aller à la conscientisation, il faut aller à la responsabilisation. Parce que il ne suffit pas de sensibiliser, il ne suffit pas que quelqu'un ait l'information pour qu'il agisse correctement. Il faut mettre en place des mécanismes qui permettent à tous ceux qui connaissent d'appliquer. Et c'est là souvent le problème chez nous.
Mmh.
Un parent qui connaît bien qu'un enfant doit rester à la maison, doit aller à l'école, mais qui, pour des raisons qui lui sont propres, ne veut pas envoyer l'enfant à l'école. Il ne faut pas qu'on reste comme ça. Il faut qu'on trouve des mécanismes, mais peut-être au niveau de la communauté. Je sais, dans nos cultures, il y a souvent ce qu'on appelle la parabe africaine ou l'élément familial.
Mm-hmm.
Comment on peut trouver un membre influent de la communauté, de la famille, pour interpréter, par exemple, le papa irresponsable. Tu vois, comment on peut travailler au niveau de l'église pour interpeller les fidèles qui s'adonnent à de telles pratiques. Comment on peut interpeller les gens au niveau des associations des chrétiens, ainsi de suite. Donc, au-delà de la sensibilisation, je pense qu'il faut vraiment la conscientisation et la responsabilisation. Et je pense que c'est à ce niveau-là que l'UNICEF a beaucoup investi pour le moment, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, parce que nous essayons d'appuyer les communautés, nous essayons d'appuyer les parents, les familles, pour renforcer leurs capacités à la fois dans la prévention des abus pour les enfants, mais aussi dans le développement des initiatives pour les prises en charge. Parce que, comme j'ai dit, l'enfant, ce n'est pas une question seulement de la famille ou de l'individu. Il y a un proverbe, je crois, qui dit que l'enfant appartient à la maman quand elle est dans...
au sein de sa mère.
Mais quand il sort, ça devient un enfant du clan, du village, ainsi de suite. Donc, je pense que nous devons tous conjuguer les efforts pour que la question de protection des droits des enfants, la question de la prise en charge, soit une question au-delà de la famille, mais une question communautaire, une question de l'État.
Mmh.
Et l'UNICEF aujourd'hui, la UNICEF RDC, travaille avec les ONG, travaille avec les églises, travaille avec l'État pour justement renforcer les capacités des communautés à monitorer, c'est-à-dire à avoir une espèce d'alerte précoce, un mécanisme qui permet d'identifier des cas d'abus et d'identifier également les lieux vers lesquels on peut orienter ces cas d'abus pour que les réponses soient apportées. Pour le moment, je crois que nous sommes trop focalisés à ce niveau-là, mais je pense qu'on doit beaucoup faire aussi au niveau de l'État pour travailler à ce qu'on ait des politiques spécialisées, que le gouvernement, par exemple, affecte des ressources au secteur social qui permettent que les enfants aillent à l'école, aillent par exemple à l'école au niveau primaire qui soit gratuit, comme ça on n'a pas de prétexte de manque de moyens pour envoyer les enfants à l'école, que le gouvernement mette une bonne politique de soins de santé pour soulager ces familles vulnérables qui ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils préfèrent aller chez les ngangakis ou des gens comme ça, et que le gouvernement donne des moyens, par exemple, des microcrédits à des parents qui n'ont pas de moyens, mais qui ont la bonne volonté d'entreprendre quelque chose de fait.
Voilà.
Il y a tellement de choses à faire, mais je pense que le plus important, je voulais vraiment souligner qu'au-delà de la sensibilisation, qu'on avance plutôt vers la conscientisation et la responsabilisation.
Jean, vous êtes à Kinshasa et Malonga dans les Bandundu. On va terminer, je pense, cette émission avec vous. Mais lisons ces deux messages. Ali Mbouluma de Boutembo qui dit ceci. Le gouvernement doit tout faire pour soutenir les parlementaires d'enfants qui travaillent pour cette cause. Nestor Mirougui de Kisangani. Il faudrait s'attaquer non pas aux effets du phénomène, mais la cause, qui est le manque criant d'une politique sociale de ce gouvernement de la sous-région. La restauration de la famille qui constitue le fondement d'un État sera une mesure durable. Jean, bonjour.
Oui, bonjour, Radio Café, bonjour, M. le journaliste.
On va terminer cette émission là. Vous n'avez qu'une minute et demie hein, pour donner les pistes de solutions dans la lutte contre ce phénomène.
Ok, rapidement, je voulais seulement dire que le problème dont nous parlons aujourd'hui, la responsabilité revient aux parents. Parce que souvent, ils fuient leur tâche. Parce que vous mettez un enfant au monde, ce n'est pas pour qu'il devienne chèque. C'est-à-dire que les parents doivent prendre conscience des actes qu'ils posent. Aussi, le gouvernement doit cesser ce problème de l'impunité. Parce qu'on attrape un trafiquant, c'est tout un réseau. Et on le connaît très bien. Alors, on les attrape, au lieu de les punir sévèrement, on les laisse. Et le système continue. On continue à trafiquer, on continue à trafiquer les enfants et tout ça. Mais le grand problème, c'est comme le disait, je viens de le dire, c'est les parents, sont les parents qui sont à la base des trafiquants. Parce que, retenez, il y a deux catégories de chèques, par exemple, pour la ville de Kinshasa. Il y a des vrais chèques, c'est-à-dire ceux qui restent réellement dans la rue, mais il y a d'autres catégories qui vont seulement la journée et les soirs reviennent à la maison. Et les seuls qui amènent à la maison le soir, c'est au profit de toute la famille. Pourtant, ils sont partis voler. Alors voilà, c'est certains parents appréciennent cette pratique-là qui ne nous honore pas.
Merci beaucoup, Jean. Il faut de plus responsabiliser les parents. Enfin, Malonga, bonjour.
Bonjour, Péro.
En une minute, on vous écoute.
Oui, d'abord, moi, je condamne ça. C'est un crime contre l'humanité. Alors, moi, je fais cette chose au gouvernement. Ce n'est pas aux parents. Oui, en tout cas, aux parents, c'est au troisième degré ou au quatrième degré. Mais c'est le gouvernement qui doit s'en charger à connaître la cause et la source hein, de ce. De ces acheteurs. Puisque si vous connaissez l'identité de cet acheteur, s'il vient de la France, s'il vient du Gabon, s'il vient d'ailleurs, il faut que le gouvernement, par son ministre ou bien son ambassadeur, s'intéresse à connaître la cause. Comment est-ce que ce trafic est favorisé là dans notre pays. Et par là, comment est-ce que le parent pourrait se sensibiliser?
Merci Malonga. Il faut d'abord commencer par le gouvernement. Et les parents, peut-être au deuxième degré de responsabilité. Nous avons deux messages pour terminer cette émission et donner la parole à notre invité pour la conclusion. Franklin Boma, qui est à Stuttgart en Allemagne, dit ceci, des solutions à un tel terme doivent être prises en amont et en aval de l'intérieur de nos familles comme de l'extérieur. L'État, nos actuels gouvernants doivent s'impliquer en donnant des moyens nécessaires aux parents pour bien encadrer, bien éduquer leurs enfants. Pour le cas de la RDC, nous savons qu'il y a une liste des facteurs qui justifient ces phénomènes. L'effondrement du tissu socio-économique amène comme implication la décomposition de certaines structures familiales. Quand les parents ne savent plus subvenir aux besoins primaires des enfants, il y a danger que les enfants se lancent à la débrouillardise. Et si cela arrive, les parents perdent le contrôle sur les enfants et l'enfant peut se permettre même l'intolérable. La place des enfants, c'est en famille pour être correctement suivi, pour être bien éduqué dans des milieux scolaires et d'encadrement professionnel, pour apprendre un métier afin de gagner sa vie. Valérie Munga du Katanga dit ceci, je pense que la meilleure façon de lutter contre cette exploitation, c'est chercher à rehausser le coût de vie des parents, une scolarisation gratuite et obligatoire des enfants au primaire et au secondaire. Des fois, ces enfants travaillent pour nourrir ou supporter toute la famille, et là, ça devient très difficile. Florent Botton, vous donnez la parole, parce qu'on va terminer cette émission par là, en une minute et demie, hein, la conclusion, eu égard à tout ce qui a été dit depuis le début de cette émission, par les auditeurs, le message que nous avons lu, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la lutte contre la peste d'enfants.
Ok, par rapport à la situation de la RDC spécifiquement, il faut retenir que, bon, comme on a eu à le dire, la traite et le trafic, c'est un phénomène complexe, multidimensionnel. Et là, on a quelques connaissances aussi des aspects superficiels. Je pense que la première des choses à faire, il faut vraiment mieux cerner le problème notamment à travers une recherche-action qui permettait de faire un état des lieux. Ça nous permettait d'avoir tout le contour du problème, avoir l'ampleur du problème en termes statistiques, en termes qualitatifs, pour permettre d'envisager des actions rationnelles. Et une fois qu'on a ça, il faut vraiment que le gouvernement arrive à structurer sa réponse, notamment en élaborant un plan d'action national qui peut avoir des ramifications au niveau provincial et local pour vraiment fédérer les efforts de tout le monde, l'État, les parents, les associations, les églises, pour lutter de façon efficace sur le phénomène. Voilà ce que je peux dire en une minute en termes de conclusion.
Merci beaucoup, M. Florent Botto. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes administrateur chargé du programme Protection de l'enfant à l'UNICEF. C'est Florent Botto. Voilà, merci pour cette précision. Et aussi, merci aux auditeurs qui nous ont suivis, ceux qui sont intervenus, ceux qui nous ont écrit. Vous avez été très nombreux qui avaient aimé cette émission. Nous vous disons tous merci. Au revoir.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Voilà, on se retrouve demain jeudi à la même heure pour une autre émission et nous allons parler santé avec la résurgence de certaines maladies au cours de l'année 2011. Par exemple, on a vu plusieurs cas de choléra, la rougeole, la poliomyélite, la méningite, la coqueluche, la fièvre typhoïde et autres. Qu'est-ce que vous, auditeurs des radiocapiers population, vous proposez pour lutter efficacement contre ces maladies qui pourtant autrefois étaient déjà éradiquées? Inscrivez-vous à pa@radiocapi.net. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à produire cette émission. Titi Poutou à la réalisation, Marie Chantal Oumba à la coordination, Nicole Ngata à la supervision et Dumazangou à assurer la mise en onde, Piro et la Mégie à la présentation et surtout ne vous déplacez pas parce que le programme continue sur Radio Capi. Au revoir à tous. Oh,